الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 30 من شهر شعبان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس هو 17 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 28 juin 2014 et ceci est le 17e cours de l'étude de la biographie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, basé sur le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les chapitres dans la vie du messager. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un chapitre en relation avec la grande bataille de Uhud. Et vous avez pu voir à travers les cours passés la perte infligée aux mécréants lors de la bataille de Badr. Vous avez pu voir également tout ce qui s'est passé après cette bataille, comme différentes expéditions militaires dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a participé. Maintenant, nous allons voir cette bataille qui est très importante dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير رحمه الله فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينال ما في نفسه شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة أي من الهجرة. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نجي par cette bataille Allah mit à l'épreuve ses serviteurs croyants et distingua les croyants véritables des hypocrites. Lorsqu'Allah fit périr les notables de Quraysh à Badr, ce qui constitua pour les polythéistes de la Mecque une calamité à laquelle ils ne s'attendaient pas, Abu Sufyan ibn Harb prit la tête de la tribu de Quraysh qui avait ainsi été décapitée. N'ayant pu, au cours de l'expédition du Sawiq, qui le conduisit aux abords de Médine, venger les morts de Badr. Il se mit à rassembler les membres de la tribu Quraysh et à les exciter contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans. Il put ainsi réunir près de 3,000 combattants, appartenant à Quraysh et à différentes tribus alliées à elle. Les mécréants emmenèrent leurs femmes afin de ne pas être tentés de prendre la fuite. Parvenus aux abords de Médine, au mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, ils campèrent à proximité du mont Uhud, plus exactement sur un monticule appelé Aynayn. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons sur la tactique à adopter. Et nous allons lire la suite, inshallah ta'ala, après. La bataille de Uhud, comme nous l'avons dit, est une bataille parmi les grandes batailles dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle les croyants encore une fois se sont opposés aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que dans cette bataille, le nombre des ennemis d'Allah était bien plus grand qu'il ne l'était lors de la bataille de Badr, car comme vous allez le voir, il y avait près de 3000 combattants parmi les koufars, alors que les musulmans, eux, étaient au début 1000 et ensuite 700, car en fait il y avait dans leur rang près de 300 hypocrites qui ont rebroussé chemin. Et donc les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient qu'à peu près 700 personnes, et ils avaient en face d'eux à peu près 3000 personnes parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était donc une des batailles les plus grandes et aussi les plus éprouvantes et difficiles. Cette bataille a eu lieu, comme l'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah, au cours de la troisième année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu lieu au nord de la ville de Médine, dans la montagne connue sous le nom de Uhud, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uhud ou Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Le mont de Uhud nous aime et nous l'aimons aussi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que cette montagne qui est celle de Uhud a une importance dans le cœur des croyants, puisqu'il dit que c'est une montagne qui est aimée des croyants et qui aime les croyants. Il y a aussi un autre hadith dans lequel un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de Abu Bakr, Umar et Uthman radiyallahu anhum, debout sur le mont de Uhud, quand soudainement elle s'est mise à trembler, la montagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à elle et lui a dit: Uskun ya Uhud, calme-toi, ô toi Uhud, fa inna alayki siddiqan ou nabiyan ou siddiqan wa shahidain, car tu as sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs. Le prophète, vous savez tous, c'est qui? Qui est le véridique? Abu Bakr radiyallahu anhu. Et qui sont les deux martyrs? Umar et Uthman, qui ont tous deux été assassinés par des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah, Allah avec cette bataille a mis à l'épreuve ses serviteurs croyants et distingua les croyants véritables des hypocrites. Vous vous souvenez que suite à la bataille de Badr, les musulmans ont eu la suprématie sur les autres peuples. Ils étaient plus forts que les autres, ou du moins ils étaient redoutables. Et beaucoup de personnes qui n'étaient pas croyantes ont adhéré à l'islam dans la ville de Médine. Il restait un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas entrer dans la religion d'Allah, l'islam, mais qui craignaient les représailles des musulmans, ce qui les a poussés à se convertir faussement à l'islam, ce qu'on appelle l'hypocrisie, qui consiste à montrer l'islam alors qu'en vérité la personne n'est pas croyante. Et elle le fait dans plusieurs buts, et parmi ces buts, le fait de protéger ses biens, le fait de protéger des intérêts quelconques. Donc, avec cette bataille, Allah tabaraka wa ta'ala va montrer aux croyants qui sont les véridiques et qui sont les menteurs hypocrites qui en fait ne sont pas vraiment croyants. Cette bataille a donc été une cause pour faire la distinction entre les véridiques et les hypocrites. Et comme l'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, plus exactement sur un monticule appelé Aynayn. En ce qui concerne ce monticule, certains parmi les savants ont dit qu'il s'agit de la colline sur laquelle ce qu'on va appeler les archers étaient chargés de rester immobiles. Ils n'avaient pas le droit de descendre de cette colline. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Uhud pour combattre les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui eux étaient venus pour attaquer les musulmans. Et il avait chargé certains compagnons qui maîtrisaient le tir à l'arc et qui maîtrisaient le fait de lancer les flèches, de rester sur le monticule où, qui va être appelé d'ailleurs Jabal al-Rumah, le mont des archers. Et il leur avait donné l'ordre de ne pas se déplacer de cet endroit jusqu'à ce que lui-même revienne pour leur donner l'autorisation de quitter cet endroit. Et ils étaient placés de sorte à protéger l'arrière des musulmans, afin que les mécréants, ne puissent pas atteindre par derrière les kuffars, les musulmans. Naam. Barakallahu fik. Donc, comme vous le voyez, Ibn Kathir rahimahullah nous cite que la cause de cette bataille, c'est, si on peut le dire comme ça, la rage d'Abu Sufyan, qui n'était pas encore croyant et qui n'a pas avalé les différentes défaites, notamment celle de Badr qui est la plus grande, et les autres. Donc, suite à cette défaite, Abu Sufyan, puisqu'il deviendra un sahabi plus tard, et qui était à cette époque mécréant, a pris la tête et le commandement du peuple de Quraysh. Car, souvenez-vous, ils ont perdu les plus grands. Ils ont perdu Amr ibn Hisham, Abu Jahl. Ils ont perdu Umayyah ibn Khalaf. Ils ont perdu Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ils ont perdu beaucoup des ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y avait plus les grands, les notables de Quraysh. Alors Abu Sufyan a été dans l'obligation d'être à la tête de ce peuple. Et il a tout fait pour se venger contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lors de l'expédition de la farine. Vous vous souvenez de cette expédition, quand il a été obligé de jeter toute la farine qu'il avait avec lui pour s'alléger et pour prendre la fuite rapidement. Dans cette expédition, Abu Sufyan avait saccagé les biens des musulmans, il avait détruit quelques palmiers et il avait assassiné un musulman et un de ses alliés. Donc, après les avoir provoqués, il a réussi à réunir près de 3000 combattants qui s'étaient réunis dans le but de frapper les musulmans et de leur infliger une perte et de les battre. Il y avait parmi ces combattants des gens du peuple de Quraysh. Il y avait les tribus alliées à Quraysh. Ce sont des tribus qui ne sont pas issues de Quraysh, mais qui se sont alliées à Quraysh, que ce soit financièrement ou même dans le combat. Ils étaient alliés à Quraysh et leur avaient promis de les secourir en cas de guerre contre un éventuel ennemi. Et il y avait également ce qu'on appelle Al-Ahabish. Et ce qu'on appelle Al-Ahabish, c'est une tribu de gens qui se sont alliés au peuple de Quraysh dans un endroit que l'on appelle Ahbash. C'est pourquoi on leur a donné ce surnom-là. Comme une personne qui habite au Bourget, on dira d'elle le Bourgetin. Donc on a donné ce surnom-là à ces personnes-là. 3000 personnes se sont réunies et ils ont même pris avec eux leurs épouses. Pourquoi ? Pour ne pas prendre la fuite. Dans le cas où ils seraient perdants, ils ne pourront pas prendre la fuite et laisser leurs épouses. Et leurs épouses avaient pour rôle de les encourager à combattre les musulmans et de les inciter à tuer les alliés d'Allah qui sont les musulmans. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك وأشار عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين بالمقام في المدينة وتابعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وخرج عليهم وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, consulta ses compagnons sur la tactique à adopter. Fallait-il aller à la rencontre de l'ennemi ou l'attendre à Médine ? Encore une fois, on voit le principe de la consultation qu'avait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'agit de choses qui sont légiférées par Allah, déterminées par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas matière à consulter quiconque parmi les gens. Par contre, quand il s'agit de prendre une décision dans un domaine qui n'a pas été fixé, délimité par la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, il n'est pas interdit de consulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc consulté ses compagnons afin de savoir quelle est la meilleure chose à faire. Est-ce qu'il faut rester à Médine et laisser l'ennemi entrer dans la ville de Médine pour ensuite se défendre, car la ville de Médine est connue de tous puisqu'elle est leur terre et ils sauront comment se comporter dans cette terre, ou bien faut-il quitter la ville de Médine et aller à la rencontre de l'ennemi, ce qui peut-être va susciter la peur de l'ennemi qui va voir que les croyants ont quitté leur ville. Quelle est la meilleure chose à adopter? Et donc, c'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons. Ibn Kathir a dit, un certain nombre d'illustres compagnons qui avaient manqué la bataille de Badr insistèrent pour sortir à la rencontre de l'ennemi. Vous voyez ici qu'il parle de compagnons qui n'ont pas pu participer à la bataille de Badr. Souvenez-vous qu'à la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas préparé. Il avait ordonné aux gens qui étaient avec lui et qui avaient avec eux leurs chameaux de monter sur leur monture et de se diriger vers la bataille. Quant à ces gens-là dont on parle maintenant, à cette époque-là, la bataille de Badr, ils n'avaient pas leur monture, donc ils ne pouvaient pas venir. Alors ils se sont dit qu'ici c'est le moment de sortir et de rattraper ce qu'on a raté. Donc pour leur part, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est meilleur de sortir, ils ont même insisté. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est-ce? C'est la tête des hypocrites de Médine, un des pires ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici, il se fait passer pour un musulman. Et regardez ce qu'il va dire. Pour sa part, lui recommanda de demeurer à Médine, suivant dans sa proposition par certains compagnons qui insistèrent également auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet hypocrite ne veut pas sortir de Médine. Les hypocrites ne veulent pas aller combattre. Ils ne veulent pas parcourir des kilomètres, peut-être contraignants, éprouvants, pour ensuite combattre. Ils ne veulent pas ça. Et c'est la raison pour laquelle il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester à Médine, soi-disant parce qu'il est mieux de combattre l'ennemi à Médine, alors qu'en vérité ce qu'il cachait dans son cœur, c'est qu'il avait tout simplement peur de sortir, combattre et de secourir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il se leva alors, c'est-à-dire le prophète, rentra chez lui. Puis, revêtu de son armure, il ressortit vers eux alors que la détermination de certains avait fléchi. Vous vous souvenez qu'Ibn Saloul a réussi à faire changer d'avis peut-être à certaines personnes. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il porte son armure, il ne reviendra jamais sur ses pas. C'est ce que vous allez voir. Ils dirent, ô messager d'Allah, si tu le veux, reste à Médine. Il répondit alors, il ne convient pas à un prophète qui a revêtu son armure de la retirer avant d'avoir combattu. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que les prophètes d'Allah, azza wa jal, lorsqu'ils étaient amenés à combattre, et qu'ils portaient leur armure pour le combat, ne rebroussaient jamais chemin et ne revenaient jamais sur leurs pas. Qala rahimahullah wa utiya bi rajulin min bani an-najjar fa salla alayhi ay rajul tuwfi kanat janaza fa salla alayhi wa dhalika yawm al-jum'ah wa istakhlafa 'ala al-madinati ibn ummi maktum. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le corps d'un homme des bani an-najjar, banu an-najjar est le nom d'une tribu des habitants de Médine, fut ensuite apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui effectua la prière funèbre sur sa dépouille. Juste avant le combat, il a prié sur un défunt parmi les croyants. Wa kharaja ila Uhudin fi alf ay kanu alfan falamma kana bi ba'd at-tariq in khazala Abdullah ibn Ubay fi nahwin min al-300 ila al-Madinah. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه يوبخهم ويحضهم على الرجوع فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم. ابن كثير رحمه الله تعالى جي tout ceci se déroula un vendredi. Puis, après avoir désigné Ibn Ummi Maktoum, afin que vous connaissiez ce compagnon, Ibn Ummi Maktoum, c'est Al-Mu'adhin, celui qui appelle à la prière et qui annonce le temps de la prière. C'était un compagnon qui était aveugle. Ibn Ummi Maktoum, pour le remplacer à Médine, il a pris la route d'Uhud, accompagné de 1000 combattants. Comme nous l'avons dit tantôt, au début ils étaient 1000. Mais en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec environ 300 hommes, abandonna l'armée musulmane pour retourner à Médine. Vous allez voir, en plusieurs batailles, les hypocrites qui montraient l'islam et cachaient en vérité la mécréance essayaient de feinter les musulmans et de les tromper en sortant à la rencontre de l'ennemi en accompagnant les musulmans, puis tout en marchant ils ralentissaient le pas jusqu'à ce que les musulmans s'éloignent d'eux, et ensuite ils rebroussent chemin et ils retournent à Médine. Et quand le prophète revient alayhi salatu wasalam, après la bataille, ils disent au messager d'Allah: ma femme était malade, au messager d'Allah, j'ai eu un problème avec mes enfants. Et ils mentaient, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, savait qu'il mentait, et il savait qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait les dévoiler et allait les châtier. Mais en chemin, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec environ 300 hommes, abandonna l'armée musulmane pour retourner à Médine. Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir radiyallahu anhu, les suivit en les blâmant et en les exhortant à réintégrer l'armée. Cet homme-là, c'est un compagnon. C'est le père d'un noble compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il est sorti, il a rejoint ces hypocrites et il a commencé à les inciter à revenir. Comment pouvez-vous délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment pouvez-vous délaisser le secours de l'islam? Comment vous pouvez délaisser cette opportunité qu'Allah vous a offerte, qui est celle de secourir la religion d'Allah Azza wa Jal et d'être un secoureur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Seul un hypocrite peut délaisser une telle opportunité. Seule une personne mécréante au cœur vide de la foi en Allah Azza wa Jal peut délaisser. C'est comme si que le paradis venait à eux sur un plateau et eux décident de ne pas le prendre et préfèrent l'enfer. Wal'iyadu billah. C'est une image qui est applicable avec ces gens-là. Et donc, le père de Jabir radiyallahu anhu les suivit en les blâmant et en les exhortant à réintégrer l'armée. Mais ils répondirent: si nous étions sûrs que vous alliez combattre, nous ne repartirions pas. Regardez comment ils ont essayé de ruser. Ils voulaient dire au père de Jabir, cet homme qui les a suivis pour les inciter à revenir, qu'il n'y allait pas avoir de combat et qu'ils ne font marche, ils ne font pas marche arrière par peur du combat, mais ils font marche arrière parce qu'il ne va pas y avoir de combat. Donc ils ont voulu cacher la peur qu'il y avait en eux. Et c'est à leur sujet qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé un verset dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ali Imran, vous vous souvenez, on a parlé des sourates, des chapitres du Coran qui font référence à des batailles. Et on a dit que la Sourate Ali Imran, la troisième sourate du Coran, dans de nombreux passages, fait référence à Uhud. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et afin que les hypocrites à qui on disait viens combattre dans le sentier d'Allah, non pardon, afin que l'on connaisse et que l'on distingue les hypocrites à qui on disait viens combattre dans le sentier d'Allah, il répondait, si on savait qu'il y allait avoir un combat, on vous aurait suivi. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit wa ha'ula al-qawm humul muradun bi qawlihi tabaraka wa ta'ala thumma dhakara al-aya. Ces gens-là sont ceux qui sont visés dans ce verset, c'est-à-dire les hypocrites qui ont rebroussé chemin et qui ont dit on part tout simplement parce qu'il ne va pas y avoir de bataille. En fait, Allah les a dévoilés et a montré qu'ils mentaient. قال وذلك لأن وقوع القتال أمر ظاهر بين لا خفاء فيه ولا شك فيه. Ibn Kathir rahimahullah a dit car Allah tabaraka wa ta'ala a montré clairement qu'il allait bel et bien avoir un combat. Comment est-ce qu'il ne va pas avoir de combat alors que 3000 personnes ont quitté la Mecque, ils sont tous armés pour combattre les musulmans, et 1000 personnes ou 700 véridiques parmi les musulmans ont quitté Médine pour aller combattre, et chacun chemine vers l'autre. Comment est-ce qu'il ne va pas avoir de combat? Il est très clair qu'il va avoir un combat, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait référence à ces hypocrites dans ce verset. Et c'est pour ça que le père de Jabir radiallahu anhu les a insultés. Ici, Ibn Kathir dit, devant leur refus, il les abandonna en les insultant, accompagné de ceux des musulmans demeurés fidèles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam campa sur le flanc de la vallée adossée au mont d'Uhud, si bien qu'Uhud se trouvait derrière son dos. Qala rahimahullah, astaqbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بمن بقي معه وهم كانوا 700 حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح تعبأ أي استعد للقتال في أصحابه وكان فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله ابن جبير أي كان أمير الرماة عبد الله ابن جبير الأوسي وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. Puis là nous allons voir la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam intelligente dans le combat. Le messager d'Allah campa sur le flanc de la vallée adossée au mont d'Uhud, si bien qu'Uhud se trouvait derrière son dos. Il défendit aux musulmans d'engager les combats avant d'en recevoir l'ordre. Au matin, il disposa ses compagnons, au nombre desquels 50 cavaliers, en ordre de bataille, à la tête des archers, au nombre de 50 également. Il plaça Abdullah ibn Jubayr de la tribu des Aous. Ici, Ibn Kathir rahimahullah nous parle de l'organisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a fait en sorte que le mont d'Uhud soit à son dos. Ensuite, il a placé 50 archers. Ce sont des gens qui maîtrisent le tir des flèches et des lances sur ce mont. Et ils avaient pour mission, pour ordre, de ne pas bouger de cet endroit et de protéger l'arrière des musulmans afin que l'ennemi ne puisse pas s'introduire par cette porte. Afin que eux soient tranquilles pour combattre les musulmans, les mécréants, qui arriveraient par l'avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce que nous a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah. إِنْ رَأَيْتُمُونَ تَخْطَفُنَ الطَّيْرِ فَلَا تَبْرَحُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَ هَزَمْنَ الْقَوْمِ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ. Regardez comment est grand l'ordre que leur donne le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur dit, après les avoir placés, c'est-à-dire les archers, même si vous voyez les oiseaux rapaces venir nous dévorer, ne quittez pas votre place jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donnera l'autorisation de vous déplacer. Et même si vous nous voyez vaincre le peuple ennemi et leur marcher dessus, ne quittez pas votre place jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un. Et donc, cette place était très importante. Et les musulmans, les archers qui étaient au nombre de 50, devaient ne pas quitter cet endroit. Car le prophète savait que c'était une porte par laquelle les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala pouvaient rentrer et donc atteindre les musulmans d'un mal. C'est pourquoi le prophète a insisté, sallallahu alayhi wa sallam, mais comme vous allez le voir, ils n'ont pas obéi. Et c'est ce qui a causé une grande perte dans le rang des musulmans. Donc, voilà comment a procédé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui était le chef de ces 50 archers? C'était Abdullah ibn Jubayr, al-Aousi, de la tribu des Aous. Abdullah ibn Jubayr est un compagnon émérité. Il a participé à la bataille de Badr et il a participé à l'allégeance dans l'endroit de Al-Aqaba. Vous vous souvenez? L'endroit où les premiers convertis à l'islam ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie du nombre de ces gens. Il ordonna à ce dernier ainsi qu'à ses troupes de ne pas quitter leur position afin de protéger les arrières des musulmans au cas où l'ennemi attaquerait par l'arrière. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revêtit deux cottes de mailles, l'une sur l'autre. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. Le prophète a donc porté deux boucliers. Pourquoi? Ici, il éduque sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, à prendre en considération les causes lorsque l'on veut atteindre un résultat. Celui qui est malade ne se laisse pas malade, il se soigne. Celui qui va combattre ne se laisse pas sans armes, sans bouclier, sans protection. Il se protège. Et cela fait partie de la confiance en Allah, Azza wa Jal. Lorsque tu entreprends quelque chose, tu dois faire les causes pour arriver à ce que tu cherches. Et si tu ne fais pas les causes, en pensant que tu as placé ta confiance en Allah, eh bien sache qu'en fait, tu n'as pas eu confiance en Allah. Car la vraie confiance en Allah, Azza wa Jal, implique de mettre en pratique les causes et ensuite de s'en remettre à Allah, sans s'attacher aux causes. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam va combattre l'ennemi. Il sait qu'il est le prophète ennemi d'Allah. Il sait qu'il est la meilleure des créatures. Et pourtant, il va combattre en sachant qu'Allah va l'aider. Et cela ne l'empêche pas pour autant de porter deux boucliers, non pas un, mais deux. Sallallahu alayhi wa sallam. وَأَعْطَ اللِّوَاءَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرَ وَأَخَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وجعل على إحدى المجنبتين أي الجنب الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. المعنق ليموت أي المسرع ليموت. كان مسرعا كان يريد أن يموت في سبيل الله عز وجل. ابن كثير رحمه الله تعالى أجي il confia la bannière musulmane à Mus'ab ibn Umayr. La bannière musulmane, c'est le drapeau qui est élevé et qui est porté par celui qui est à l'avant, comme on l'a déjà dit, dans la bataille. Et également, il a pour sagesse et pour but de guider les gens. C'est-à-dire que les musulmans, quand ils vont s'éparpiller dans le combat, ils vont chercher où est la bannière pour se regrouper. Et ça fait partie également de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le combat. À qui est-ce qu'il a confié cette bannière justement? À Mus'ab ibn Umayr. Qui va me dire qui est Mus'ab ibn Umayr? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il est connu? C'est un jeune martyr, effectivement. D'ailleurs, il va mourir à Uhud. Mais qu'est-ce qu'on a appris de lui? Qu'est-ce qu'on a appris de lui? C'est le fils d'une famille riche. Mais là, je demande ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris de lui? Mus'ab ibn Umayr, na'am. C'est un frère a dit c'est le premier voyageur de l'islam. Et ça, c'est ce que j'attendais. Il est parti à la Mecque de Médine. Pardon, il est parti à Médine de la Mecque pour appeler les premières personnes à l'islam. C'est lui qui a été enseigné le Coran et qui a prêché à l'islam à Médine. Et c'est une des causes de la conversion de la plupart des habitants de Médine. Et c'était un jeune homme. Effectivement, il était issu d'une famille très riche. Quand il était à la Mecque et quand il est arrivé à Médine, vous allez voir qu'il n'était pas si riche que ça. Il confia la bannière musulmane à Mus'ab ibn Umayr, du clan des Banu Abd ad-Dar, et plaça l'une des deux ailes de l'armée sous le commandement de Zubayr ibn al-Awwam et l'autre sous le commandement de Al-Munzir ibn Amr, surnommé Al-Mu'niqu li-Yamut, c'est-à-dire celui qui s'empresse vers la mort. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé comme ça? Car il a été connu dans ses batailles comme étant quelqu'un de brave, de courageux, et qui se jetait au combat tellement il espérait être tué par les kuffars et mourir en martyr. Et il n'a pas réussi à mourir dans la bataille de Uhud. Il est mort dans une autre bataille que nous allons voir, inshallah ta'ala, qui s'appelle Bi'ru Ma'una, la bataille du puits de Ma'una, 4 mois après la bataille de Uhud. طيب. قال رحمه الله واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله ابن عمر وعرابة ابن أوس وعمر ابن حزم ثم أجازهم يوم الخندق. Vous allez voir ici combien étaient sincères les compagnons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, il passa en revue les jeunes hommes, permettant à certains d'entre eux seulement de prendre part au combat, dont Samura le fils de Jundub et Rafi' le fils de Khadij, tous deux âgés d'à peine 15 ans. Juste avant de partir, des jeunes enfants sont arrivés, ils voulaient accompagner les compagnons au combat, ils voulaient secourir l'islam. Et ils n'avaient pas plus de 15 ans, ils étaient adolescents. Et d'ailleurs, ici Ibn Kathir rahimahullah nous cite deux noms parmi les enfants qui ont été acceptés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour participer au combat. Samura ibn Jundub et Rafi' ibn Khadij. Et certains parmi les enfants sont arrivés, le prophète les laissait marcher et les regardait. Il regardait leur corpulence, il regardait s'ils étaient capables physiquement de participer au combat ou non. Il renvoyait les plus jeunes d'entre eux et les plus faibles, et il acceptait les plus forts d'entre eux. Jusqu'à ce qu'un petit est arrivé. Il était jaloux car il avait été refusé et un autre avait été accepté. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: « Ô messager d'Allah, tu le prends et tu me refuses alors que je suis plus fort que lui. Et si je fais un corps à corps avec lui, tu me verras le vaincre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites un corps à corps, c'est-à-dire de la lutte, une bataille. Ils ont fait un corps à corps. Et le jeune qui est venu se plaindre a vaincu l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viens avec nous. Et ils sont partis combattre. Mais qu'est-ce que l'on retire vraiment d'important dans ce point? C'est la sincérité des compagnons, même les enfants. Même les enfants voulaient secourir la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ils ne dépassaient même pas la quinzaine. Et ils avaient déjà le souci de secourir la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi étaient les compagnons. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont atteint la cinquantaine. Et ils pensent qu'à secourir leur personne. Ils ne pensent pas à secourir la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils pensent à secourir leur bien, leur argent, leur honneur, etc. Mais quand il s'agit de secourir la religion, ils sont absents. Et c'est d'Allah tabaraka wa ta'ala que vient la guider. Parmi ceux auxquels il refusa le combat ce jour-là, se trouvait Usama ibn Zayd ibn Haritha, Usayd ibn Zuhayr, Al-Bara ibn Azib, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Amr, Araba ibn Aws et Amr ibn Hazim, qui l'autorisa en revanche à participer au combat lors de l'expédition de la tranchée. C'est une expédition que vous allez voir plus loin, inshallah ta'ala. Wa ta'abba'at Quraishun aydan, ay ista'addat, wa hum fi thalathati alaf, kama dhakarna. فيهم 200 فارس فجعلوا على ميمنتهم أي اليمين خالد بن الوليد وهذا خالد بن الوليد بعد زمان سيكون من أفضل الصحابة رضي الله عنه وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل وكذلك سيكون من الصحابة بعد فتح مكة ابن كثير رحمه الله تعالى أدي de son côté l'armée de Quraysh, forte de 3000 hommes, comme indiqué précédemment, se mit également en ordre de bataille. La cavalerie des polythéistes, formée de 200 hommes à cheval, était commandée par Khalid, le fils de l'Walid. Regardez, 200 chevaux. Et le prophète, alayhi salam, combien ? 50. 50 cavaliers. C'est-à-dire qu'ils sont 4 fois plus nombreux en termes de... d'utilisation de la monture qui est le cheval. Formé de 200 hommes à cheval, était commandé par Khalid ibn al-Walid sur la droite et Ikrima, le fils de Abu Jahl, sur la gauche. Et ces deux personnes dont vous entendez les noms vont devenir par la suite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Sufyan, qui est à l'origine de la bataille de Uhud. Et même Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, va devenir un des plus fervents défenseurs de l'islam. Il va tellement regretter d'avoir cherché à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam que va naître en lui un courage sans précédent lors de la rencontre des ennemis d'Allah quand il deviendra musulman. Il souhaitait même, pour se faire voir expier son péché et pardonner, mourir au combat. Il a tout fait pour être tué au combat, il n'a jamais réussi, il est mort tranquillement sur son lit. Et sur tout son corps, il y avait des blessures. Radiallahu anhu. Quant à Ikrima ibn Abi Jahl, c'est tout simplement le fils d'Abu Jahl dont la tête a été coupée par Abdullah ibn Mas'ud et qui a été tué par les deux jeunes enfants dans la bataille de Badr. Donc il y avait une aile gauche et une aile droite. Puis Ibn Kathir rahimahullah dit: وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو ابن صيفي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق الغيظ ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة، عبدان جمع عبيد جمع عبد، والأحابيش، تعرف إلى قومه فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: le premier idolâtre à provoquer en duel les musulmans fut Abu Amr al-Rahib ibn Abd Amr al-Saifi. Et donc cet homme-là, c'est le premier qui a provoqué les musulmans pour le duel. Car comme vous vous souvenez, au début de chaque bataille, il y a d'abord un duel. Il y a deux personnes qui s'affrontent et qui se battent au milieu des deux rangs, le rang des musulmans et le rang des kuffars. Et après ce tête-à-tête et ce duel, le combat éclate. Et le premier homme, c'est cet homme-là, Abu Amr al-Rahib. C'était un ennemi de l'islam. Il a tout fait pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réussi à être préservé des musulmans le jour de Uhud. Il a pris la fuite et on ne l'a pas atteint. Jusqu'au jour de la conquête de la Mecque, où il a fui, il a persisté sur la mécréance, il a quitté la Mecque, il est parti rejoindre les Romains. Il est resté là-bas et il est mort en tant que mécréant. Et il a eu comme enfant le noble compagnon Hanzala, qui d'ailleurs faisait partie des combattants parmi les croyants le jour de Uhud. C'est-à-dire qu'il y a deux rangs, le rang des croyants, le rang des kuffars. Dans le rang des croyants, il y a Hanzala. Et dans le rang des kuffars, il y a son père, son propre père. Et il en est de même pour beaucoup des compagnons. Abu Bakr radiallahu anhu, dans plusieurs batailles, il est dans le rang des musulmans, et de l'autre côté, il y a son propre père qui combat les musulmans. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça où certains parmi les compagnons ont affronté les proches de leur famille et ce sont même eux qui les ont tués. Subhanallah. Et cela nous montre à quel point la foi en Allah avait dépassé toutes les limites dans leur cœur. La foi en Allah était la chose la plus importante. Leur frère était celui qui secourait la religion d'Allah. Leur ennemi était celui qui cherchait à causer du tort à la religion d'Allah, fût-il de ses proches. Ainsi étaient les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Il fait sortir le vivant du mort. Et certains savants ont pris ce verset pour dire qu'il fait sortir un croyant d'un père mécréant ou d'une mère mécréante. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: cet homme qui se vouait à une vie monastique avait été le chef des Aous à l'époque pré-islamique, mais avait été finalement abandonné par les siens à l'avènement de l'islam. Il était suivi, c'était un modèle pour son peuple. Puis quand l'islam est arrivé, ils ont adhéré à l'islam et ils l'ont abandonné. Il se refusa donc à embrasser la nouvelle religion, préférant au contraire déclarer ouvertement son animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci invoqua donc Allah contre lui, si bien qu'il fut chassé de Médine. Il alla alors trouver les membres de la tribu Quraysh, déjà remplis de haine contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qu'il exhorta à combattre les musulmans. Donc déjà on a un peuple de mécréants qui est complètement enragé, car ils ne cessent d'être vaincus par les croyants et leurs biens sont pris par les croyants. En plus de ça, il y a cet homme-là qui quitte la ville de Médine, qui rejoint les kuffars et qui continue à les inciter à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله تعالى نعم. Ibn Kathir رحمه الله continue et dit: il alla alors trouver les membres de la tribu Quraysh, déjà remplis de haine contre le messager d'Allah et ses compagnons, alayhi salatu wassalam, qu'il exhorta à combattre les musulmans. Il promit aux polythéistes de la Mecque de faire pencher en leur faveur sa tribu, les Haous, le jour de la bataille. Il leur a dit : Venez, allons combattre, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne la tribu des Haous, j'étais pour eux un modèle. Et lorsque on arrivera à côté d'eux, je les convaincrai de nous rejoindre. Ils abandonneront le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensent que ces croyants qui ont goûté à la foi vont se détacher de leur religion, simplement parce qu'il va les inciter. Car il a été privé, il n'a pas goûté à la saveur de la foi. Il ne sait pas que le croyant, quand il goûte à la saveur de la foi, devient inébranlable. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le faire dévier. Car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le préserve et qui le guide. Aussi, lorsqu'il arriva au milieu des esclaves, des Mekwa et de leurs alliés, c'est-à-dire qu'il est arrivé devant les musulmans, accompagné de certains esclaves des Mekwa et de leurs alliés. Il se présenta aux siens qui l'insultèrent en ces termes : Qu'Allah ne te fasse jamais goûter au bonheur, espèce de pervers. Subhanallah, regardez la fermeté de ces gens-là. C'est-à-dire que lui est arrivé à eux et a commencé à se présenter. Il leur a dit : Je suis l'ancien chef chez vous. Je suis issu de vous, je suis un tel, le fils d'un tel, j'ai été à la Mecque et j'ai incité les koufars à combattre les musulmans, rejoignez-nous, soyez du nombre des combattants contre l'islam, vous aurez la victoire, et ainsi de suite. Ils lui ont dit qu'Allah ne te fasse jamais goûter au bonheur, espèce de pervers. Et il est d'ailleurs dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a surnommé pervers, fasiq. Et le fasiq, le pervers, c'est celui qui est sorti de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit alors, par Allah, mon peuple a été touché par le malheur après mon départ. Au lieu de se repentir, au lieu de se corriger, il dit, mon peuple s'est égaré, il a été touché par un malheur après mon départ. Il combattit ensuite farouchement les musulmans, subhanallah. Il a combattu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana shi'aru ashabi rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, amit, amit. Shi'ar ay al-kalima allati ya'rifu ba'duhum ba'dan fiha fi wasat al-ma'raka. فإذا سمع مسلم أمت أمت عرف أن قائل هذه المقالة مسلم وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنه Jami'ihim. Puis Ibn Kathir rahimahullah dit, le mot de ralliement des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était ce jour-là tue-le. Le mot de ralliement, quand les compagnons allaient combattre, il y avait toujours un mot qui allait servir aux musulmans de se reconnaître les uns les autres. Car dans la bataille, il y a la terre. Donc ils sont dans des montagnes, dans des endroits poussiéreux, où il y a beaucoup de terre, ils sont à cheval, ils ont des armes. Et quand ils se combattent, et ils sont dans le milieu, on va dire, ou dans le cœur de la bataille, les uns ont tendance à ne pas reconnaître les autres. Comment est-ce qu'ils se reconnaissaient? Ils prononçaient ce mot, Amit, Amit. Et celui parmi les musulmans qui entendait quelqu'un dire Amit, Amit, reconnaissait que cette personne était un musulman. Et tout ça encore fait partie de la stratégie intelligente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Était ce jour-là au nombre des musulmans qui firent preuve de courage sur le champ de la bataille figurait Abu Dujana, Simak, le fils de Kharasha, et aussi Hamza, l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était surnommé le lion d'Allah et le lion du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. De même, Parmi les plus valeureux combattants musulmans se trouvaient Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et un groupe d'ansar, au nombre desquels An-Nadr ibn Anas et Sa'd ibn Rabi', qu'Allah les agrée tous. Abu Dujana, radiyallahu anhu, est un compagnon qui était connu pour sa bravoure et son courage. Et il était redoutable et il était redouté chez l'ennemi d'Allah, azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu son épée et a dit au compagnon: Man ya'khudhu sayfi hadha? Qui est-ce qui prend mon épée que vous voyez? Ils sont tous venus et ont dit: Ana ya Rasulallah, moi ô messager d'Allah, moi ô messager d'Allah. Puis le prophète a dit alayhi salatu wa sallam: Man ya'khudhu bihaqqi? Qui est-ce qui le prend en toute vérité? Ay yasta'miluhu fi qital al-kuffar wa la yarji' yuqatil yamdi muqatilan fi sabilillah azza wa jalla. Le prophète leur dit: qui prend cette épée en toute vérité, c'est-à-dire avec courage, bravoure? Qui va prendre cette épée et va s'en servir pour combattre les ennemis d'Allah sans la moindre hésitation et avec la plus grande fermeté? Et c'est donc Abu Dujana radiyallahu anhu qui a dit: ana akhudhuha bihaqqi, ana akhudhuha bihaqqi, je suis celui qui va le prendre, qui va prendre cette épée en toute justice. Il a pris cette épée et il l'a utilisée, faqata'a ru'usa kathirin min al-mushrikin, avec laquelle il a découpé beaucoup de têtes parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il a eu un combat difficile, ainsi que Ali ibn Abi Talib et ainsi que Hamza. Et d'ailleurs Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père, va mourir pendant la bataille de Uhud, comme on va le voir plus loin inshaAllah ta'ala. Qala rahimahullah: فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزموا راجعين حتى وصل إلى نسائهم. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: au début de la journée, les combats tournèrent à l'avantage des musulmans qui mirent les polythéistes en déroute. Pourquoi est-ce que au début de la journée les musulmans étaient vainqueurs? Parce qu'ils ont suivi la ligne tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la stratégie à adopter pour le combat. Tant que chacun mettait en pratique l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam, la baraka d'Allah descendait sur eux. Et à partir du moment où ils vont désobéir à Allah, il va leur arriver ce que vous allez voir. Et donc au début, les musulmans étaient vainqueurs. Ils ont mis en déroute les koufars. Dans leur fuite, les hommes de Quraysh atteignirent le campement de leurs femmes. فَلَمَّا رَأَ ذَلِكَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمْ الرُّمَاهُ قَالُوا يَا قَوْمَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ فَذَكَّرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ تَقْدِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَظَنُّوا أَنْ لَيْسَ لِلْمُشْرِكِينَ رَجْعَةٌ وَأَنَّهُ لَا تَقُومُ لَهُمْ قَائِمَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَهَبُوا فِي طَلَبِ الْغَنِيمَةِ وَكَرَّ الْفُرْسَانُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدُوا تِلْكَ الْفُرْجَةَ قَدْ خَلَتْ مِنَ الرُّمَاهِ فَجَازُوهَا وَتَمَكَّنُوا وَأَقْبَلَ آخِرُهُمْ فَكَانَ مَا أَرَادَ اللَّهُ كَوْنَهُ فَاسْتُشْهِدَ مَنْ أَكْرَمَ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ وَتَوَلَّى أَكْثَرُهُمْ. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: devant la débâcle des Mekwas, les archers commandés par Abdullah ibn Jubayr s'écrièrent les uns aux autres: le butin, le butin! Car dans la bataille, les musulmans, quand ils arrivent à vaincre l'ennemi, il y a ce qu'on appelle le butin. Eux se sont empressés. Ils ont oublié que le prophète alayhi salatu wasalam leur a dit: ne vous déplacez pas de cet endroit, quand bien même vous verrez les oiseaux rapaces venir nous dévorer. Et même si vous nous voyez battre l'ennemi, ce qui s'est passé exactement, ils n'ont pas suivi l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont vu le butin et ils se sont dit: Les ennemis ont pris la fuite, on peut donc descendre. Certes, le prophète nous a interdit de quitter cet endroit, mais en fait, il nous a interdit simplement afin que les ennemis ne nous atteignent pas. Mais là, les ennemis, nous les voyons fuir. On peut donc descendre. Ils ont fait un effort de réflexion, alors qu'il n'y a aucun effort de réflexion à faire après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir là, ce qui va leur être infligé. Et ça enseigne aux musulmans que le musulman ne doit pas dire quand il entend qal Allah, qal Rasulullah, Allah a dit, le prophète a dit, il ne doit pas dire oui mais peut-être qu'à cette époque c'est différent, oui mais peut-être que dans cette situation c'est différent. Car quand le musulman agit ainsi, il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsque le prophète donne un ordre, cet ordre à la base émane d'Allah tabaraka wa ta'ala, il vient d'Allah. Et Allah est celui qui connaît les situations et les temps. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne de faire une chose il y a 2000 ans, il y a 1400 ans, et cet ordre ne cesse d'être en vigueur, il est toujours valable, c'est qu'il sait que cet ordre est bon et sera bon jusqu'à la fin des temps. Et ce qui se passe aujourd'hui, toi tu ne le savais pas, Allah lui le savait. Donc le fait de dire que c'est différent, que ce n'est pas pareil, comme beaucoup de faibles musulmans, voire beaucoup d'innovateurs font, particulièrement la secte des frères musulmans, qui disent à chaque fois qu'ils voient, ou très souvent quand ils voient quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils disent, oui mais nous sommes dans une époque où c'est différent. Et si le prophète vivait à cette époque, il aurait fait telle ou telle chose. Wal'iyadu billah. Jusqu'à ce qu'on entende l'un d'entre eux, parmi les plus égarés, dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant à notre époque, il montrait dans le mirage et il s'habillerait d'un costard cravate. Wal'iyadu billah. Quel égarement de parler comme ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, où est-ce qu'on apprend ces leçons? Où est-ce qu'on apprend que c'est un égarement? Ce que eux font aujourd'hui, on l'apprend dans la sira. On l'apprend dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le butin, ils ont le droit de le prendre, car ils ont vaincu l'ennemi. Ils sont descendus de cette montagne pour prendre une chose qui, à la base, leur est licite, c'est le butin de guerre. Mais ils ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala et au prophète alayhi salatu wassalam, ils sont descendus de ce mont alors que leur chef leur disait de rester. Regardez, Abdullah ibn Jubayr leur rappela alors les consignes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Mais persuadés que les polythéistes étaient défaits et que le cours des événements ne pouvait être inversé, ils se mirent en quête du butin. Or, les cavaliers polythéistes revinrent à la charge et, profitant de la brèche provoquée par l'absence des archers, purent surprendre les musulmans. L'arrière-garde de l'armée des polythéistes regagna alors le champ de bataille. Et d'ailleurs, il est dit que c'est Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui au début prenait la fuite avec ses armées. C'était celui qui devait garder l'aile droite des combattants contre l'islam. Donc, ils ont pris la fuite. Et il y a eu une grande divergence entre les archers sur la colline. Il y a ceux qui disent, descendons pour récupérer le butin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de descendre pour ne pas être attaqué. Mais nous voyons de nos propres yeux les ennemis partir. Et ça t'enseigne encore quelque chose. Ne te fie pas à ta personne. La ta'atamid ala nafsik. Wa la taqul ana fahimtu hadha wa ana ra'aytu hadha. Et ne dis pas, je pense que, j'ai compris que. Idha qala Allah wa rasuluh. Si Allah et son messager ont dit avant toi, ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Ne t'appuie jamais sur ton expérience. Ne t'appuie jamais sur ta propre personne et ne prends aucune initiative après un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Jubayr leur a dit, souvenez-vous que le prophète nous a interdit de descendre. Et on dit, oui mais il nous a interdit de descendre parce que on ne devait pas être touché par l'ennemi. Mais l'ennemi prend la fuite devant nos yeux, on le voit fuir. Mais la baraka vient d'Allah, le secours vient d'Allah. Le secours ne vient pas de toi et moi. Ils ont refusé, ils ont décidé de descendre. Abdullah ibn Jubair est resté avec ceux qui l'ont suivi. Les archers sont descendus. Khalid ibn al-Walid est sur sa monture. Et les archers descendent de la monture au moment où Khalid ibn al-Walid tourne la tête. Car quand il prend la fuite, il tourne la tête pour voir quand même s'il y a possibilité de revenir. Au moment où il tourne la tête, qu'est-ce qu'il voit ? Les croyants descendre de la seule porte par laquelle pouvaient entrer les confrères. Khalid ibn al-Walid a immédiatement appelé tous ses combattants et leur a dit de revenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait marche arrière, ils sont revenus. Ils ont réussi à entrer par cette porte. Ils se sont rapprochés des compagnons. Ils en ont tué des dizaines. Et vous allez voir, ils ont réussi à blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont même cassé une dent alayhi salatu wa sallam. Et ils lui ont fait couler le sang de sa joue alayhi salatu wa sallam. C'est ce que vous allez voir inshallah ta'ala la semaine prochaine bi'idhnillah ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.